Et avant d'ouvrir notre Bible, je vous invite à prier, afin que ces quelques textes que nous allons entendre deviennent paroles de vie. Père très bon, Dieu de tendresse, ami des hommes, tu nous as donné ton Fils et tu as déchiré le ciel pour dire tout l'amour que tu as pour lui. Tu nous as donné ton Fils et dans ce don, tu nous manifestes tout l'amour que tu as pour nous. Dans ta grâce, fais descendre maintenant sur nous ton Esprit Saint, qu'il vienne guider nos pas pour nous faire suivre le Christ, qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences à sa parole, qu'il nous garde dans l'adoration et qu'il nous conduise ainsi où tu voudras nous conduire, dans la profondeur de ton amour. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous continuons nos séries de prédications sur des thèmes qui sont communs à l'islam. Et alors aujourd'hui, c'est un thème commun aux trois religions du livre, puisque c'est ainsi que l'on nous nomme le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc voici quelques textes pour illustrer ce thème. D'abord, le septième verset du deuxième chapitre du livre de la Genèse. L'Éternel Dieu forma l'être humain de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'être humain devint un être vivant. Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, la fin du chapitre 2 et les premiers versets, les 11 premiers versets ou 12 premiers versets du chapitre 3. Aussitôt baptisé, Jésus remonte de l'eau. Alors les cieux s'ouvrent pour lui. Il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. » Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses gens des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et les anges vinrent le servir. Ensuite, les versets 25 à 28 du chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Un spécialiste de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Et enfin, le sixième verset de la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3. C'est lui aussi, c'est-à-dire Dieu, lui, avec une lettre majuscule, c'est Dieu aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Alors, il est vrai que il est communément admis que le christianisme, on va les dire dans l'ordre chronologique, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les religions du livre. Pourtant, personnellement, j'ai bien des doutes quant à cette appellation. Je dirais même que je la conteste assez fortement. Les raisons en sont nombreuses. Alors, je vais vous en donner quelques-unes en vrac. Alors, certes, la Bible, qui est formée pour nous les chrétiens de l'Ancien Testament, qui reprend d'ailleurs la Bible hébraïque, pratiquement presque telle que, et du Nouveau Testament, c'est vraiment la référence, le livre de référence pour tous les chrétiens. Mais contrairement à ce que l'on peut entendre dire, encore plus d'ailleurs, je pense, chez les protestants que chez les catholiques, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors quand j'ai le malheur de dire ça, quand je fais une émission de radio, après, j'ai des collègues pasteurs qui me disent « Oh là là, c'est comme si j'avais blasphémé en disant ça ». Eh bien non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, voilà, en voilà une, c'est un livre. Et puis tant que je ne l'ouvre pas, que je ne la lis pas, que je ne la médite pas, que je ne la partage pas, c'est un livre comme les autres. Et si elle est pleine de poussière sur une étagère, eh bien c'est un livre qui n'a pas plus de valeur que les autres. Alors moi j'aime bien les livres, alors évidemment il y a quelques valeurs, mais bon. Aujourd'hui j'ai ma Bible sur mon iPhone et ça devient la parole de Dieu quand je la lis finalement. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc la Bible n'est jamais la parole de Dieu. C'est pour ça aussi que je résiste à cette appellation de parole de Dieu, parce que le risque, c'est de transformer le livre en Dieu. Et Dieu ne s'enferme pas, même dans la Bible. L'Écriture n'est en rien magique. Elle a vocation, par contre, à devenir parole de Dieu, parole de vie, pour aujourd'hui, pour chacun et pour chacune d'entre nous. Mais pour ça, il faut la travailler un peu. Et parce que pour les chrétiens, la parole de Dieu, eh bien, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est le Christ. Et je pense que nous ne pouvons jamais l'oublier. Alors certes, nous avons accès au Christ à travers ce livre, mais ce n'est qu'un média, en quelque sorte, qui nous permet d'accéder au Christ. Et même la sola scriptura des protestants, cela ne veut pas dire que, ça, évidemment ça signifie la Bible seule, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre que la Bible. En fait, lorsque les réformateurs ont mis cette affirmation en avant, eh bien en fait, c'était pour se dégager des lectures dogmatiques, des magistères, et pour dire qu'en effet, il fallait revenir aux sources, revenir à la lecture de la Bible. Mais cette lecture de la Bible, au cours des temps, eh bien, elle évolue. Je ne lis pas la Bible et je ne l'interprète pas comme le faisait saint Augustin, ni même comme le faisait Calvin ou Luther, ni même comme le faisait Eugène Bercier, mais je la lis, moi, avec mes yeux de femme du XXIe siècle. Et c'est ce que vous invite à faire, à entrer, vous, personnellement, dans ce texte. Ensuite, la Bible, cela vient du grec. C'est pour ça qu'il faut faire du grec, ta biblia, qui est un pluriel. Donc la Bible, on ne peut pas être la religion du livre, à la limite on serait la religion des livres, parce que dans la Bible, il y a de nombreux livres, et même dans ces livres, eh bien, il y a des échanges, il y a du débat, on sent bien qu'il n'y a pas une seule vérité, que la vérité vient justement de l'échange, du débat, de ces différents points de vue. Et quand même, les personnes qui ont clôturé en réalité la Bible ont eu une audace extraordinaire. Imaginez, ils nous ont donné 4 textes pour nous raconter la vie de Jésus, 4 évangiles. Et en réalité, les gens que souvent nous reprochent en disant « Mais ces quatre évangiles ne racontent pas exactement la même chose, il y a même des contradictions. Regardez dans certains évangiles, Jésus, son ministère a duré 3 ans, dans l'autre 1 an. Alors, où est la vérité ?» Eh bien, la vérité, c'est que ces évangiles sont des témoignages humains qui nous donnent chacun un point de vue, une image différente du Christ. Et puis, ça s'adresse à des gens différents. 4 évangiles parce que, justement, c'est à nous de trouver qui il est dans notre vie. Ce n'est pas un récit historique. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un récit historique? Parce que déjà là, même quand on essaye d'être le plus scientifique possible, il y a bien des divergences. Mais au contraire, c'est des témoignages de gens qui croient. Des gens qui croient et qui veulent faire passer leur foi, qui nous disent leur foi. Et je pense que c'est cela. La Bible, c'est une succession de témoignages profondément humains, mais d'hommes et de femmes. Enfin, en réalité, plutôt des hommes. Ça me ferait bien plaisir de savoir qu'il y a quelques femmes qui ont écrit la Bible. Mais je pense pas trop. Mais enfin, bref, des témoignages humains, mais profondément inspirés par l'Esprit. Et je pense que c'est cela aussi qui est très important. La Bible a été écrite par des hommes, ça n'a pas été dicté par Dieu. Et puis, mais ces hommes étaient inspirés. C'est pour ça, c'est ça qui donne la force de la Bible. Et puis, la Bible, au moment où nous la lisons, nous avons besoin aussi de cet esprit. Alors, on va essayer de voir à travers ce texte tout à l'heure de la tentation de Jésus, combien il faut essayer de voir exactement ce que c'est que l'Esprit de Dieu. Un de mes versets préférés, et ceux qui me connaissent l'ont bien entendu souvent, c'est « La lettre tue, mais l'Esprit fait vivre ». Oui, bon, c'est facile, mais de toute façon, j'aime pas du tout me servir d'un verset unique comme pour mes propos. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que cet esprit. Mais c'est vrai que je l'aime bien quand même, parce qu'il y a une chose dont je suis à peu près persuadée, c'est que la lettre tue. Et on voit bien en ce moment que tous les fondamentalismes, quels qu'ils soient, sont tus, et au sens propre comme au sens figuré. Et alors donc, il y a quelque chose là de très fort dans ce court passage de Paul, quand il nous invite à lire non pas selon la lettre, mais selon l'Esprit, parce que Dieu a gravé sa loi, non pas sur des pierres, mais sur un cœur de chair. C'est quelque chose que nous pouvons avoir tout le temps à l'esprit. Et d'ailleurs, le Christ lui-même, dans ce passage, vous savez que je vous ai lu de l'Évangile de Luc, c'est juste avant la parabole dite du bon Samaritain. Le légiste cherche à le piéger, il cherche à montrer combien lui il sait et combien le Christ se trompe. Et lui dit, comment puis-je avoir la vie éternelle? Il lui dit, mais que lis-tu dans la loi? Bon, c'est encore. Mais il rajoute tout de suite, comment lis-tu? Il ne suffit pas de lire, il faut savoir interpréter. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel à ne jamais oublier. Savoir interpréter la loi. La loi, évidemment, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Mais cette loi, elle est à actualiser continuellement, à mettre en aptitude, en quelque sorte, avec la singularité de chaque situation. C'est ce que le Christ a fait tout au long de son ministère. Parce que parfois, le Christ est extrêmement exigeant. On peut même le trouver difficile avec ses proches, particulièrement les disciples, lorsqu'il n'a de cesse de les rabrouer, de leur dire qu'ils n'ont pas de foi, etc., etc. Et puis, il est également aussi si compatissant à ceux qui sont plus bas que terre. Ainsi, aimer les autres, parfois, c'est exiger. C'est même être antipathique pour essayer d'extirper d'eux quelque chose de meilleur. Et puis, lorsque nous savons qu'ils sont à plat, en bas, eh bien, c'est faire un bout de chemin avec eux, avec compassion, avec sympathie. C'est cela aussi, savoir interpréter. Il n'y a pas une réponse unique. C'est à chaque moment de notre vie d'essayer de voir de la manière dont nous pouvons nous comporter à la lumière de cette écriture. Ensuite, avant de passer au texte biblique, je voudrais même contester le terme de religion. Il ne me plaît pas beaucoup ce terme de religion. Et en tout cas, religion du livre, si le livre auquel on se réfère, c'est la Bible qui lui-même sont des livres, eh bien, en fait, ce n'est pas très juste. Parce que la Bible, à mon avis, est un livre profondément anti-religieux. Il y a même des livres dans la Bible qui sont pires par rapport à la religion et même par rapport à Dieu que les pamphlets les plus athéistes. Je pense particulièrement au livre de Job ou de l'Ecclésiaste. Lisez-les, vous verrez, tout est balayé, tout ce qu'on peut apprendre au catéchisme, ce qu'on apprenait, parce qu'on apprend un peu différemment aujourd'hui, eh bien, est balayé. On a une image, eh bien, de la religion complètement différente. Et on a aussi une image de Dieu qui nous est à travailler continuellement. Dieu n'est jamais enfermé, justement. On ne peut pas l'enfermer ni dans un livre, ni dans une image. Ainsi, ces livres sont là pour nous ébranler, pour nous bousculer. Alors, j'ai du mal avec ce terme « religion du livre ». Et puis j'ai encore bien plus de mal quand j'entends des collègues pasteurs nous dire « la Bible nous dit que ». Eh bien, et s'ils citent un verset biblique, comme j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, vous remarquerez, mais bon, j'ai mis quelques réserves là-dessus. La Bible n'offre jamais de réponse toute faite. La Bible n'offre jamais ou presque de réponse directe. Et d'ailleurs, on va le voir, l'utilisation d'un verset biblique peut être tout à fait diabolique. Donc, méfions-nous de cela et au contraire, approfondissons, lisons encore et encore la Bible seule, en groupe, écoutons-la prêcher, et je pense que c'est là qu'elle devient vraiment parole de Dieu, parole vivante. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis servi de ce passage des tentations de Jésus, les 40 jours qu'il va le passer dans le désert, juste avant le début de son ministère, pour essayer d'illustrer mon propos, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vous rappelle quand même ce court verset de la Genèse que j'ai lu au début. Eh bien, Dieu nous a en effet créés à partir de la poussière, mais il a insufflé son esprit pour que nous puissions vivre. Là aussi, l'esprit, c'est ce qui nous sert à vivre. C'est ce qu'on va chanter d'ailleurs tout à l'heure, mais ça c'est... faut m'écouter encore un petit moment avant de chanter. Alors, une fois ces quelques jalons posés, nous allons entrer dans le texte pour essayer d'abord de découvrir l'identité des protagonistes. Alors, vous l'avez entendu, c'est pour ça que j'ai commencé au chapitre 2, vous l'avez entendu, Jésus vient d'être baptisé. Au moment où il sort de l'eau, c'est l'Esprit qui va dire « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». Donc, Jésus, finalement, il nous a été présenté juste avant. C'est l'Esprit qui nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais dans cette histoire de tentation, il y a un autre protagoniste. Et celui-là, on ne le connaît pas vraiment. On ne le connaît pas vraiment. Qui est-il ? Le diable ? Le tentateur ? Satan ? C'est les trois termes qui sont employés. Alors, qui est-il ? Eh bien, en fait, je pense que ce sont trois noms, trois appellations. D'ailleurs, ce ne sont pas des noms propres, aucun. Je vais y revenir. Ces trois noms pour nous dire, en fait, tout ce que peut être le mal. D'abord, le diable. Le diable, en grec, c'est celui qui divise, le diabolos. Alors, moi, j'aime bien les bandes dessinées. Celle-là, elle date un peu, mais je ne sais pas si vous connaissez la zizanie. Astérix et la zizanie. Il y a un petit bonhomme pas très sympathique qui arrive, qui s'appelle Tullius Détritus. Et puis, à peine, il est arrivé dans le village gaulois et tout le monde s'entretue. Il arrive à diviser tout le monde. Eh bien, le diable, c'est ça. Et de temps en temps, nous sommes bien cela. On a une parole qui divise. D'ailleurs, des fois, pour assouvir nos fins personnelles, on dit bien diviser pour mieux régner. Le diable, c'est celui-là. Celui qui fiche la pagaille, pour ne pas dire autre chose, partout. Quand il arrive, il divise. Et quand on est divisé, eh bien, oui, on ne peut pas avancer. Et cela devient de pire en pire. Ensuite, on nous dit que c'est le tentateur. Ou c'est toujours compliqué les traductions. Personnellement, bon, c'est pas un mot très joli, mais la tentation en grec, c'est le verbe éprouver. Donc on pourrait dire celui qui éprouve, celui qui met dans l'épreuve. Alors là, c'est un peu ennuyeux, parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais qui est-ce qui amène Jésus dans l'épreuve au tout début de notre passage ? Eh bien, c'est l'Esprit lui-même qui amène Jésus dans le désert. L'Esprit serait-il donc le tentateur, celui qui éprouve ? Alors là, évidemment, ça nous bouscule un peu et c'est bien loin de l'image du Dieu d'amour que nous prêchons. Alors, on y reviendra tout à l'heure, il faut aller voir un peu plus loin les citations qu'il y a, auxquelles font appel d'ailleurs à la fois le diable et Jésus, pour essayer de comprendre. D'ailleurs, je laisse tout ça assez ouvert. Mais finalement, ça fait référence à des passages dans le Deutéronome où il nous est dit que Dieu éprouve son peuple dans le désert. Mais l'épreuve est-elle toujours négative? C'est ça, en fait, la vraie question. L'épreuve peut être négative, mais elle peut être positive aussi. C'est là que toute la subtilité du texte biblique est présente. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, on voit toujours quelque chose de positif et qui nous protégerait. Eh bien, même cet esprit est capable de nous soumettre à l'épreuve, mais de manière positive. D'ailleurs, on le sait bien, les parents, de temps en temps, eh bien, nous essayons de protéger nos enfants. Mais on est encore des meilleurs parents quand on y arrive, enfin, c'est pas toujours facile, quand on leur apprend à affronter les épreuves. Et je pense qu'il y a là une manière qui peut être positive, parce que pour vivre vraiment, il faut être capable d'affronter ces épreuves. Alors, Dieu est à nos côtés, ça, nous le savons, et c'est ce qui est quelque chose qui est vraiment constant dans toute la Bible. Même lorsqu'on a l'impression qu'il n'est pas là, il est présent. Mais il n'est pas là non plus comme une sorte de bouclier invincible. Non, Dieu, c'est peut-être pas lui qui nous éprouve directement, mais il est là aussi à nos côtés dans l'épreuve. C'est pour ça que ce mot de tentateur peut être tout à fait négatif lorsqu'on essaye d'éprouver les gens pour les éprouver. Mais l'épreuve, c'est aussi ce que nous avons à traverser. La vie est beauté, comme le dit un beau texte de Mère Teresa, mais il est aussi épreuve. Eh bien, Dieu est à nos côtés lorsque nous sommes éprouvés. Et enfin, pour savoir un peu qui est celui qui va tenter, éprouver, essayer de diviser Jésus, ce terme de Satan, qu'on nous présente toujours avec un S majuscule, mais en fait, ça vient d'un mot hébreu. Vous avez compris qu'il faut faire de l'hébreu et du grec quand même, mais vous avez tout ce que vous voulez à l'étoile pour faire de l'hébreu et du grec. Donc, le Satan vient d'un mot qui signifie l'adversaire, l'accusateur, en quelque sorte celui qui nous accuse pour nous enfoncer encore plus bas. Donc, et c'est assez intéressant parce que dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il va partir, il leur dit « il faut que je parte pour que l'esprit qu'on appelle le paraclet, c'est souvent pas traduit dans les Bibles, que le paraclet puisse venir ». Et là, le paraclet, c'est tout à fait le contraire. Donc on voit bien toutes les ambiguïtés parfois, des ambivalences du texte, la polysémie de certains mots. Eh bien, ce paraclet, c'est au contraire celui qui prend notre défense. C'est le défenseur. L'Esprit de Dieu, eh bien, est à l'opposé du Satan. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui nous défend et qui nous accompagne. En quelque sorte, on pourrait dire que, certes, nous sommes soumis à l'épreuve. Dieu ne va pas empêcher les épreuves. Mais nous avons son esprit pour nous faire vivre et nous faire avancer. Son esprit qui, au lieu de nous enfoncer, nous permet de nous défendre et d'avancer dans nos vies. Ainsi, on voit à travers ces quelques mots combien on peut essayer de visiter ce que c'est que cet esprit. Et on peut le comprendre à travers justement ce jeu d'écho dans le texte, jeu d'écho avec les textes qui font référence justement à cette épreuve du peuple dans le désert. Le peuple va découvrir que dans la difficulté, l'Éternel est à ses côtés. Le peuple va découvrir cela. C'est ce qu'il expérimente, et c'est ce que va expérimenter aussi le Christ pendant ses 40 jours dans le désert. Il garde sa foi et sa confiance totale. Il comprend que la grande question auquel le diable le confronte est celle de savoir qui il est. Tout à l'heure, je disais qu'on connaissait son identité. Qui il est, mais surtout comment vivre, être fils de Dieu. Dans la toute-puissance, il le pourrait, ou en consentant tout simplement à la mission de son Père, en acceptant sa condition humaine. Alors, je pense que cette question, nous pouvons l'entendre aujourd'hui. C'est la question qui s'est posée au Christ, mais c'est la question qui se pose à nous continuellement. Comment être profondément enfant de Dieu, en étant tout-puissant, en voulant écraser tout le monde, en se disant « j'ai Dieu à mes côtés et je peux tout », et puis peu importe ce qui arrive, ou en étant profondément humain, c'est-à-dire au contraire, en acceptant nos faiblesses,
en sachant tout simplement que Dieu est à nos côtés. Et puis je voudrais terminer, parce que ce texte en est truffé, quatre fois il nous est dit, il est écrit. Quatre fois des références à l'Écriture. Et d'ailleurs, regardez les évangiles. Jésus n'a de cesse à dire « il est écrit ». Et puis, vous avez vu dans ce passage avec le légiste, il répond très très bien le légiste à Jésus. Il lui dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton intelligence, enfin, de tout notre être et ton prochain comme toi-même ». Il a bien énoncé la loi, il a bien lu. Mais après, il faut interpréter cela. Il est écrit, continuellement on le retrouve dans le Nouveau Testament, ses références à l'Écriture ancienne. Et dans l'Ancien Testament aussi, il y a au sein même de l'Ancien Testament du débat et de la réinterprétation. Par exemple, eh bien, les livres des rois qui nous racontent l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, ça a été réécrit quelques siècles plus tard dans le livre des chroniques et s'est présenté de manière différente. Le David du livre des rois n'est pas le même que celui du livre des chroniques. On voit qu'à l'intérieur même des écritures, il y a de la réinterprétation. Donc nous sommes invités, nous aussi, à interpréter. Mais ce « il est écrit » m'a quand même interpellée. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une joute à coups de versets bibliques entre Jésus et le diable, le tentateur, peu importe comment on va l'appeler. Je l'appellerai le diable, c'est plus simple, mais vous avez bien compris que c'était un peu plus complexe que ça. « Il est écrit » quatre fois. Mais Jésus emploie les Écritures et le diable aussi. Cela nous montre bien qu'il faut se méfier. Et je me méfie dans les débats que nous avons parfois, et souvent même, entre théologiens au sein de l'Église, et où j'ai certains collègues qui disent « l'autorité de l'Écriture ». Moi, je veux bien que l'autorité, qu'il y ait une autorité de l'Écriture, mais comme je le disais, elle n'est pas directe. Parce que l'usage des Écritures peut être diabolique. Et nous-mêmes, je devrais dire moi-même, la première, il faut que je m'en méfie. L'usage de l'écriture peut être diabolique, elle peut diviser, elle peut être démoniaque, c'est-à-dire qu'on peut se servir d'un verset pour amener quelqu'un à faire ce qu'on a envie qu'il fasse, et c'est bien ce que fait le diable. Et là, en cela, l'écriture est tout à fait démoniaque. Donc, peut-être que nous sommes la religion du livre, parce qu'en effet, les chrétiens ont en commun ce livre ou ces livres que sont la Bible. Nous avons cette référence en commun. Et puis religion, oui, parce que c'est ce qui nous relie. Parce que l'étymologie de religion, c'est ça. Mais tout de même, il faut de la distance par rapport à tout cela. Vous l'aurez bien compris à travers ce passage où Jésus est tenté dans le désert. Eh bien, nous sommes invités à ne pas être tentés de la lecture facile. Peut-être que c'est cela aussi qu'on nous dit là. La tentation de la lecture trop facile. Eh bien, nous sommes invités à prendre de la distance et à travailler ces textes parce qu'ils ont été écrits dans un lieu géographique qui est lointain, à une époque qui est lointaine, et qu'il faut pour nous, eh bien, traverser tout cela pour actualiser, interpréter aujourd'hui ces écritures. L'actualité n'a de cesse d'ailleurs de nous répéter, de faire très très attention à ne pas justement lire au ras des pâquerettes de manière fondamentale, littérale. Nous sommes au contraire invités à lire, mais ainsi à nous laisser interpeller, à nous laisser transformer par ces écrits, afin qu'ils deviennent paroles vivantes. Nous sommes invités à relever ce défi. Alors, nous avons pour cela ce souffle de vie qui parfois, eh bien, nous bouscule un peu, ce souffle vivant, ce souffle saint, cet Esprit Saint qui nous fait vivre et qui va nous permettre de transformer ces textes en paroles de vie, par nos paroles, par nos gestes, parfois même par nos silences. Et nous sommes invités à redonner donc à la Bible toute sa dimension d'interpellation et à devenir non pas des interprètes crédules, mais au contraire des interprètes crédibles. Amen.